Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette lorgnette consacrée à l'humour et aux différentes censures qui s'exercent sur ce qui est parfois considéré comme un contre-pouvoir. Avec Mathéo Larocque, journaliste pour le site indépendant Off Investigation, qui prépare un film et une série documentaire sur l'humour politique, on revient sur le travail de fond de Vincent Bolloré pour saper toute tentative de dérision et de critique sur ses antennes, et sur la censure et l'autocensure du service public dans un contexte marqué par la montée de l'extrême droite. Cette émission a été préparée et co-animée avec Marlène Rodriguez de la radio associative Radio Active à Amboise. Bonne écoute à toutes et à tous de cette lorgnette.
Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir échanger avec Mathéo Larocque, journaliste au sein d'Off Investigation. Je précise que notre échange se déroule en visioconférence avec trois points de connexion. Mathéo qui nous rejoint depuis Paris. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Thomas et Mathilde, nos confrères de Studio Zef qui sont à Blois. Bonjour.
Bonjour.
Et nous qui sommes dans les studios de Radioactive à Amboise. Je précise également que cet échange sera relayé par plusieurs de nos collègues du collectif des radios associatives du centre qui ont exprimé leur intérêt. Un grand merci à Mathéo pour votre disponibilité pour cet échange aujourd'hui.
Merci de me recevoir.
Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter Off Investigation et votre rôle au sein de la rédaction ?
Alors, Off Investigation, c'est un média 100% indépendant qui a été fondé par Jean-Baptiste Rivoire. Jean-Baptiste Rivoire, c'était l'ancien rédacteur en chef de Spécial Investigation, donc une des premières émissions d'investigation à la télévision sur Canal+, qui a été mise au pas à partir du moment où Bolloré a pris le contrôle de Canal+. Et en fait, du coup, pendant 5 ans, Jean-Baptiste Rivoire, il était au placard, il n'avait plus le droit de traiter aucun sujet à part des affaires sur Dupont-Ligonnès. Et puis, au bout de 3 mois, on lui disait, finalement, Netflix vient de sortir un sujet sur ça, donc oublie, ça sert à rien. Et en fait, il a fini par réussir à partir avec un plan de départ parce qu'on lui demandait, pour partir, il fallait absolument qu'il signe des clauses de silence. Et ça, il refusait de le faire. Et au bout d'un moment, il y a eu un plan social. À ce moment-là, il a accepté de partir. Mais on l'a encore une fois forcé à signer ces fameuses clauses de silence. Et là, au bout de 5 ans, il a craqué, il a signé. Mais 6 mois plus tard, ou 8 mois plus tard exactement, il donnait une interview à Reporters sans frontières où il critiquait Vincent Bolloré. Ça, il n'a pas supporté. Et du coup, il a dû reverser 150 000 euros à Vincent Bolloré à ce sujet. Mais pendant ces 5 ans où il était au placard, ça ne l'a pas empêché de... d'un peu réfléchir à un moyen de libérer l'information et l'investigation. Et donc, en fait, Off Investigation, c'est un média qui est 100% en ligne. Donc, on s'est fait connaître surtout avec nos documentaires. Je crois qu'aujourd'hui, on cumule 60 millions de vues. Et ça arrive... on fait souvent des documentaires à 1 million de vues sur YouTube. Et au maximum, c'est 4 millions qu'on a fait jusqu'ici. Et on a toute une partie de presse écrite qu'on développe de plus en plus grâce aux dons et aux abonnements parce que c'est 100% de notre financement vient des dons citoyens.
Et comme vous le disiez à l'instant, la récente condamnation de Jean-Baptiste Rivoire a versé les 142 500, moi j'ai trouvé le chiffre exact, à son ancien employeur, évidemment ça met à mal les finances aussi de votre média.
C'est clair, ça devait être 180 000. Donc finalement, une petite bonne nouvelle dans le malheur. Mais oui, en effet, ça, c'est un gros coup dur pour le média et pour Jean-Baptiste Rivoire. Surtout que là, en plus, on a lancé une nouvelle campagne de dons pour la prochaine saison où j'ai pris beaucoup part, qui est sur toutes les censures qui peuvent s'exercer sur l'humour politique et notamment dans toute la sphère Bolloré. Et on a également un des épisodes, c'est Bolloré contre l'info, où on parle en fait de toute la manière dont il a cadenassé l'information et l'investigation à Canal+. Donc ouais, c'est un gros coup dur. Après, heureusement, on a eu quand même pas mal de gens qui se sont mobilisés, qui ont participé à l'appel aux dons pour financer notre documentaire.
Oui, parce qu'il y a 5 épisodes, juste pour remettre un peu le contexte. Et donc, le premier est financé, le deuxième aussi, je crois.
Oui, là, il me semble qu'on en a financé 3.
Super.
Je crois. Nous, on arrive à faire des documentaires avec 40 000 euros. À la télévision, c'est plutôt autour de 150 000 euros, un documentaire. Donc, nous, avec 40 000 euros. Et là, on est à 160 000 récoltés. Donc, on en a 4. qui sont financés et il nous manque plus que le dernier, le cinquième, qui est sur les guignols de l'info.
Voilà, c'est ça. Donc le premier, Fini de rire, l'humour politique au garde à vous, c'est celui qui va sortir les 18 et 19 septembre, qui sort en salle. Il faut savoir que le financement participatif, en 2 semaines, il était plié. Donc c'est dire qu'il y a du monde derrière vous.
Ouais, ça fait plaisir.
D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent prendre contact avec leur cinéma de proximité pour que justement soit relayée cette série, c'est possible.
Bah là, c'est la toute première fois en fait qu'on va diffuser un film au cinéma. Donc c'est Fini de rire. C'est sur les différentes pressions qui s'exercent sur l'humour, que ça soit à la fois dans l'audiovisuel public et à la fois dans tous les médias privés. Et il y a une grosse impulsion de Vincent Bolloré. Notamment pour ça, parce qu'il détient Canal+, qui a longtemps été la chaîne sur laquelle on pouvait se permettre de rire, d'être impertinent. Mais il détient aussi pas mal de salles de spectacle, notamment l'Olympia, dont il ne se gêne pas de se servir. Par exemple, Patrick Timsit, une fois, il avait critiqué Hanouna sur le plateau de Quotidien. Et en fait, quelques heures plus tard, toute sa tournée, toutes ses dates à l'Olympia ont été annulées. Tout simplement. Et il y a pas mal de choses comme ça. En fait, Canal+, c'est aussi ceux qui, via Comédie Plus, une de leurs chaînes, qui diffusent tous les spectacles des humoristes. Et en fait, la captation aujourd'hui, c'est quand même très important dans l'économie d'un spectacle. Donc, il y a aussi pas mal de gens qui peuvent se faire censurer vis-à-vis des captations sur Comédie Plus. Il y a tout un phénomène qui est assez fort et qui tire l'audiovisuel public de ce côté également. Et en fait, voilà, on a voulu enquêter sur ça, sur 10 ans d'humour et 10 ans de pression en coulisses. Et c'était vraiment assez passionnant. Et ça va être diffusé. Au début, on tâtonnait. Il y a un distributeur qui nous a approchés. On devait faire dans une trentaine de salles. Et finalement, ça va être dans près de 300 salles. Donc, ce qui est super. Et voilà, on espère se mettre un petit peu dans... Un peu comme a fait Mediapart avec...
Personne n'y comprend rien, le documentaire de Fabrice Arfier et de Karl Lass qui revient sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Alors j'en profite, pourquoi on comprend que vous avez voulu faire un peu comme Mediapart, qui a effectivement sorti son documentaire au cinéma. Pourquoi choisir ce média? Pourquoi ne pas avoir réservé ce premier volet, ce premier documentaire d'une série à votre site, en fait?
En fait, nous, initialement, on voulait faire un visa exceptionnel. Pour être tout à fait sincère, on se voit un petit peu aussi comme totalement indépendant, du coup, comme un peu presque des youtubeurs dans la manière de la liberté éditoriale. Et en fait, il y avait donc la possibilité de faire des visas exceptionnels, comme beaucoup l'ont fait, comme notamment Inoxtag, par exemple, avec Kaizen. On réfléchit un peu à des nouvelles manières de pouvoir parler un peu avec notre public et faire vivre nos films. Donc, il y a des visas exceptionnels qui durent 48 heures et dans lesquels on peut ensuite, on n'est pas obligé de respecter la chronologie des médias et on peut directement le publier sur YouTube dans la foulée. Sauf que, en fait, il y a eu un gros enthousiasme des différentes salles de spectacle qui ont vu le documentaire. Et c'est tout récent, là, qu'on nous dit qu'on va vraiment faire un vrai visa et on va devoir respecter la chronologie des médias et on va devoir laisser le film plus longtemps en salle. C'est une expérience, c'est une manière aussi d'aller à la rencontre de notre public, de toutes les personnes qui nous soutiennent, une manière de faire vivre notre film un peu autrement et on est très content de ça. On va faire des projections événements avec les différents humoristes qui ont participé. Je pense que ça va être très intéressant et très, très sympa.
En France, les fous du roi ont toujours été tolérés, même sous la monarchie absolue, même sous Napoléon, on les a toujours laissés se moquer des puissants. C'était un droit, un patrimoine, presque un instinct national. Eh bien, c'est en train de disparaître. Depuis 20 ans, les humoristes qui tapent trop juste sont systématiquement écartés. Les guignols de l'info, sabotés par Vincent Bolloré en 2015. Thomas VDB et Mathieu Madénian, écartés de France Télé par Delphine Ernotte en 2017. Pierre-Emmanuel Barré, censuré à plusieurs reprises par l'audiovisuel public. Florence Mendez, bâché par Nagui. Guillaume Meurice, viré de Radio France pour sa blague sur Netanyahou. Après avoir mené une guerre sans merci contre l'investigation, tout se passe comme si les milliardaires et les macronistes semblaient désormais exiger qu'on n'ait même plus le droit de se moquer d'eux. Or le rire, c'est la dernière arme qui reste à une population pour résister aux injustices. Vouloir nous empêcher de rire, c'est juste vouloir nous étrangler et c'est inacceptable. Alors on a décidé d'en faire un film, d'aller voir ceux qu'on a tenté de faire taire. De Bruno Gassio à Guillaume Meurice, de Jamil Lechlag à Hakim Omiri, de Audrey Vernon à Thomas VDB, de Florence Mendez à Edgar Rive. tous vont nous raconter les pressions, les campagnes de discrédit, les licenciements et comment ils ont résisté, quitte à sortir du système médiatique pour rester libres.
Cette indépendance qui nous est tant chère, qu'on chérit tant, aujourd'hui elle existe principalement sur Internet. Elle n'existe sur aucune chaîne de télé. Tu m'en cites une seule, elle n'existe nulle part. Nulle fucking part. Ça, il faut le dire. Nulle part.
Ce film, aucune télé ne le produirait. Vous seul pouvez le financer. Et si vous y parvenez, il sortira dans une vingtaine de salles de cinéma en France le 18 septembre prochain. Faites un don sur offinvestigation.fr. On est des millions, on peut y arriver et on va rigoler.
Alors justement, dans la présentation, on retrouve le parcours de Guillaume Meurice, évidemment, Pierre-Emmanuel Barré, Stéphane Guillon, on parle des Guignols, bien sûr. On sait qu'il y a le soutien de Hakim Omiri qui a clairement affiché son soutien. Qu'est-ce qui justement, c'est quoi le lien entre leur situation à chacun?
Alors là, le lien entre les différents humoristes que vous avez cités, ben, il est assez clair parce qu'ils étaient tous à France Inter. C'est un peu tous la même bande et c'est beaucoup en réaction. Ils sont tous quittés France Inter en réaction à la mise au pas et au fait que Guillaume Meurice se soit fait virer après sa blague sur Netanyahou qui n'avait rien d'illégal, qui avait été
qui avait qualifié de nazi sans prépuce.
Oui, dans une chronique sur les déguisements sur Halloween, pour Halloween. Donc la justice avait dit qu'elle n'avait absolument rien d'antisémite. Et après ça, tous, en fait, c'était en soutien à Guillaume Meurice qu'ils ont tous choisi de quitter France Inter. Et donc maintenant, ils sont sur Radio Nova pour l'émission La Dernière, qui est un peu leur...
Qui cartonne.
Exactement. Qui font plus que France Inter sur la même tranche horaire. Donc c'est pas forcément un très bon coup. Mais Guillaume Meurice, on le sait peut-être moins, mais il a aussi été censuré, par exemple, par Vincent Bolloré. Il avait fait un livre sur les expressions de la langue française avec une linguiste. Et il y avait l'expression « faire long feu ». Il avait marqué « c'est comme faire de l'investigation sur Canal+, avec Vincent Bolloré » ou quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment une micro-blague dans 300 pages de livre. Et en fait, au dernier moment, il devait faire des dédicaces, je crois, en fin de semaine. Et une journaliste du Monde l'appelle et lui dit « finalement, ça ne va pas avoir lieu tes dédicaces et tout, ton livre est annulé ». Et lui, il répond « mais pourtant, c'est déjà parti à l'impression, j'ai déjà vu les stocks, etc. » Il fait « non, mais tout est annulé, il ne verra jamais le jour ». Et en fait, on l'appelle quelques heures plus tard et c'était vrai parce que voilà, il y avait une petite blague sur Vincent Bolloré qui n'était pas bien passée. Mais il y a également plein d'autres humoristes qui n'ont aucun rapport avec cette bande. Enfin, je pense par exemple à Edgar Rive, qui a été donc lui c'est un franco-béninois, un fils d'un ancien, enfin fils d'un ambassadeur béninois qui était installé en France, et il s'est fait connaître avec un sketch qui s'appelait La Corruption, où il racontait un petit peu comment les élites africaines, notamment son père, détournaient allègrement de l'argent et comment lui s'en est longtemps accommodé avant de divorcer un peu de ce milieu et de vouloir devenir humoriste et de se faire rejeter de sa famille. Et bon, dans ce sketch dans La Corruption, il parlait de Vincent Bolloré en disant qu'il finançait des campagnes politiques en Afrique, ce qui est le cas, hein, ce qu'il a reconnu notamment au Togo. Il a plaidé coupable pour exactement ça, corruption d'agents étrangers. Et donc, il avait été très connu pour ce sketch. Il avait, dans la foulée, été invité par Cyril Hanouna dans une émission et il avait refait cette blague sans dire le nom de Vincent Bolloré, en parlant d'un milliardaire que je ne nommerai pas parce que j'ai envie de continuer à faire des séries sur Canal+. Et malgré ça, le sketch se fait censurer dans la diffusion finale. Et en fait, lui, il a fini par être totalement blacklisté de toute la galaxie Bolloré, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des captations de festivals d'humour, etc., lui se fait censurer, n'apparaît pas dans la version définitive.
Quand on parle de musellement de l'humour, on est complètement là-dedans.
Par rapport du coup au cas Guillaume Meurice, on voit qu'il y a clairement une guerre, j'allais dire entre guillemets, mais sans les guillemets, entre Guillaume Meurice et Bolloré. Mais si on prend tous les cas de censure, à quel moment de l'enquête ou avant que l'enquête soit menée, vous êtes rendu compte que ce n'est pas de la censure envers une seule personne ou envers une seule phrase, mais c'est de la censure envers l'art qu'est l'humour politique?
Je pense qu'on s'en est rendu compte avant de commencer l'enquête. Hein. Du fait notamment de Jean-Baptiste Rivoire qui a vécu tout ça de l'intérieur. C'est de lui qu'était venue l'idée de faire quelque chose sur les pressions qui s'exercent sur l'humour. Et donc, quand on a commencé, très rapidement, le projet s'est scindé en plusieurs blocs. Donc il y avait un bloc qui était vraiment que sur l'audiovisuel public et un bloc qui était que sur la sphère Bolloré. Et moi, c'est moi, je me suis occupé que de celui sur la sphère Bolloré, finalement. Et très rapidement, moi, je me suis dit, bon, il y a un documentaire en plus, à part de celui-là qu'on a appelé « Souriez, vous êtes viré, l'humour selon Vincent Bolloré », il y a un autre documentaire qui doit exister en plus, c'est « L'histoire secrète des guignols de l'info ». Parce que, enfin, que ça dépasse déjà juste… parce que c'est l'émission la plus emblématique, et je crois que tout le monde se souvient de cette émission, et tout le monde… Enfin, très souvent, on lit « C'est dommage que les guignols de l'info n'existent plus », etc. Donc, en fait, il y avait quelque chose d'un peu évident. Avec ce symbole.
C'est sous l'ère Sarkozy d'ailleurs qu'elle a été supprimée celle-là.
C'était en 2000. En fait, Vincent Bolloré prend le pouvoir sur Canal+ en 2015. Donc c'est déjà François Hollande à ce moment-là. Et il arrête définitivement l'émission officiellement en 2018. Mais l'émission est déjà morte en 2015 parce que tous les auteurs sont changés et le ton change complètement. Mais par contre, en effet, Vincent Bolloré est très proche de Nicolas Sarkozy. Et donc, autour des années 2010, il y a un groupe secret qui vise à la réélection de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle le groupe Fourtou, et dans lequel il y a des représentants de Vincent Bolloré et des représentants de Canal+, qui visent à un rassemblement comme ça. Et notamment, le journaliste d'investigation Marc Hundeveld nous a dit, parce qu'il a beaucoup enquêté sur ce sujet, que en fait, c'était un petit peu un pacte entre Nicolas Sarkozy et Vincent Bolloré, qui était « tu m'aides à reprendre Canal+, et moi, je te promets que je virerai ces journalistes gauchistes et j'arrêterai les guignols de l'info ». Et c'est un peu ce qui s'est passé, finalement.
J'ai quand même envie de vous demander, Mathéo, est-ce que vous ressentez des pressions par rapport au travail que vous menez, là, qui est quand même très dénonciateur, et moi, j'ai presque envie de dire d'intérêt public, mais ça n'engage que moi.
Bah, moi, c'est sûr, quand j'ai commencé, moi, ça fait 2 ans que je suis à faire investigation, et oui, la première année, j'avais un peu peur, oui.
c'est une vraie question.
Ouais, j'avais un peu peur. Je rentrais d'un documentaire à l'étranger, c'était sur la nouvelle génération d'activistes indigènes qui étaient aux États-Unis, Canada, Brésil, Pérou. Donc j'étais vraiment très loin de tout ça, même si je suivais toujours beaucoup la politique française. Et les premiers documentaires que j'ai faits, c'est un ton très offensif qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas plus trop l'habitude de voir. Et en effet, ça peut faire un peu peur. Souvent, il y a des discussions sur le fait de signer ou pas les documentaires. Pour tous les nouveaux journalistes, tous les premiers qui font des documentaires, il y a souvent ces questions qui reviennent. Au final, je crois qu'à chaque fois, on les signe.
Pour avoir beaucoup écouté Guillaume Meurice échanger sur divers plateaux, dans diverses interviews sur l'éviction de France Inter, sur son départ de France Inter, il rappelle, il n'était pas si choqué que ça par son départ, puisqu'il rappelait, alors on a rappelé aussi les cas de Stéphane Guillon avant lui et d'autres, mais il rappelle que la censure de l'humour dans les médias a toujours eu lieu. Il est remonté jusqu'à Coluche, qui avait été viré d'Europe 1 pour je ne sais plus quelle blague ou quel fait. Donc en fait, on est en train d'essayer de... Enfin, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression de parler d'un phénomène qui est nouveau, puisque Meurice lui-même rappelle que ça c'est le fait depuis des décennies, s'il était capable de remonter à Coluche. Est-ce que des choses ont changé, ou est-ce que c'est les mêmes mécaniques finalement qui se répètent entre Coluche et Guillaume Meurice?
Ce qui a changé, je pense, c'est l'aspect un petit peu mainmise sur toute l'industrie culturelle par un acteur qui se revendique catholique conservateur, mais enfin qui est clairement d'extrême droite, et qui en fait, par la puissance de son groupe de médias, infuse également sur les autres médias.
Donc l'audiovisuel public a peur que les dispositifs du privé l'empêchent de travailler correctement.
Je ne sais pas si c'est une question. Je pense que c'est plutôt une question d'influence, en fait. À force, par exemple, d'entendre toute la journée des discours d'extrême droite sur CNews, on devient partial si on n'en met pas sur sa propre chaîne. Et on se fait traiter de gauchiste, d'orienté, si jamais on ne met pas assez d'extrême droite sur sa propre chaîne. En fait, c'est un renversement, oui, de la fenêtre d'Overton. On en entend beaucoup parler de ça, mais c'est vraiment ça qui est à l'œuvre et qui change le cadrage de ce qui peut être dit.
Et d'ailleurs, Jean-Baptiste Rivoire le disait dans une vidéo que j'ai pu voir, Bolloré, il a le droit d'être d'extrême droite, hein, c'est son droit tout à fait, mais pas de multiplier les discours xénophobes sur toutes les chaînes, quoi. Bien sûr.
Ouais, c'est clair.
Et d'ailleurs, on parle de la télé, de la radio, mais on pense aussi aux maisons d'édition et aux auteurs qui ont aussi signé une tribune avant de claquer la porte. Donc oui, ça soulève quand même beaucoup, beaucoup de révoltes.
Bah, en fait, si on regarde à chaque fois, c'est le même mode opératoire. Hein. Ça a commencé avec iTélé, je crois que c'était en 2015. Et en fait, à chaque fois qu'ils s'emparent d'un média ou que ça soit de la presse écrite, d'un journal, que ça soit de la télévision, de la radio, en fait, à chaque fois, il y a une purge. Tous les journalistes disparaissent, enfin, se font virer, et ils sont remplacés systématiquement par des journalistes d'extrême droite. Et ça, enfin, oui, c'est dans sa bataille culturelle, c'est le fait de voir des objets culturels et de les vider de leur substance et de les remplir d'autres choses tout en gardant cette coquille. Et c'est comme ça qu'il avance, qu'il place ses pions. Et c'est pas très facile de lutter, quoi. Donc nous, on essaye de le faire à notre échelle en faisant des documentaires indépendants sur YouTube.
Vincent Bolloré a un sens de l'humour très particulier.
Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien.
Vous savez qu'il a déjà joué à l'Olympia ? C'était en novembre 2015, face aux salariés de Canal+.
J'ai l'impression de le retrouver dans une série télé un peu moyenne. Il y a un psychopathe qui est arrivé dans une pension de famille. Le psychopathe, c'est moi, la pension de famille, c'est vous. Et le psychopathe, sans savoir exactement pourquoi ou qui, tue régulièrement, brutalement, un certain nombre de gens.
Ça aurait pu être drôle, sauf que c'est vrai.
Après avoir saboté les guignols dès l'été 2015, le milliardaire d'extrême droite va supprimer le zapping de Canal+, pousser Yann Barthès dans les bras du groupe TF1.
Au revoir Canal+.
Et couronner Hanouna avec un contrat à 250 millions d'euros.
Mais il n'y a pas que dans le groupe Canal que le célèbre milliardaire va décapiter les humoristes. Devenu propriétaire d'Europe 1, Vincent Bolloré ne supporte plus que l'on se moque d'Éric Zemmour, Cyril Hanouna ou même Pascal Praud. D'où des pressions sur les humoristes maison.
Christine Béroux, Bertrand Chameroy, Donald Jacksman, ils seront tous poussés vers la sortie.
Dès ma première chronique, la directrice des programmes m'appelle comme la CPE du collège, quoi. Elle m'appelle, ça vient dans mon bureau. Ok, super, bah ça, non.
Sauf que l'emprise de l'oligarque ne s'arrête pas aux médias.
Depuis quelques années, il cherche à contrôler notre rire jusque dans les salles de spectacle. Celles qu'il possède, comme l'Olympia, mais aussi les autres, qui ont besoin de sa chaîne Comédie Plus pour faire diffuser leur spectacle.
Edgar Rive, Kevin Razi, Éric et Quentin, Guillaume Meurice, de nombreux humoristes ont accepté de témoigner des coulisses de leurs blagues. Et spoiler, ça fait froid dans le dos.
C'est des gens qui t'appellent et qui authentiquement te menacent.
Censure, autocensure, pression, boycott, Vincent Bolloré n'est pas là pour rigoler.
Il prend votre rire très au sérieux et cherche à le contrôler par la peur.
Est-ce que vous avez pu échanger avec, parce qu'il en reste notamment sur le service public, sur la radio publique la plus écoutée de France, qui est France Inter, pour ne pas la nommer, est-ce que vous avez pu échanger avec des humoristes qui sont encore en poste dans ces différentes émissions et qui témoignent peut-être d'un changement entre maintenant et il y a 5 ou 6 ans avant que tout cela ne se passe?
On a essayé d'échanger avec Charline Vanhoenacker.
Ouais, notamment, qui a vécu toute cette tempête, ouais.
Oui.
Ouais, qui a vécu toutes ces tempêtes et qui est devenue en fait assez très isolée du reste de la bande qu'ils ont eue pendant une dizaine d'années, voire un peu plus. C'est la seule qui n'a pas voulu participer au documentaire. Donc, enfin voilà, elle, on sentait que ben elle l'avait voulu, elle était très attachée, je pense, à la maison Radio France, et ce qui comptait le plus pour elle, c'était de rester dans cette radio, mais quitte à un peu laisser de côté, laisser tomber ses soldats, quoi. Et finalement, je suis pas sûr qu'elle ait pris une très bonne décision. Mais après, on a le sentiment un petit peu que ceux qui sont restés sur France Inter, c'est un humour un peu plus lisse, un peu moins forcément peut-être engagé. Faut aussi voir la pression qu'il y avait pendant que Guillaume Meurice officiait sur France Inter. Il y avait Pascal Praud qui avait à ce moment-là, qui était vraiment au top du top de ses audiences, qui constamment dénigrait, appelait à la démission de Laurence Bloch, etc. Et en fait, c'est une pression qui est mise par l'extrême droite, par les médias Bolloré. Et ben, en France, on ne tient pas toujours.
Est-ce qu'on peut parler d'autocensure sur le service public ? Ou est-ce que c'est un sujet pour les prochains humoristes qui seront peut-être, sachant qu'on peut avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ?
Bah, en fait, tous les humoristes à qui on a parlé, notamment je pense à Jamil Lechlag, qui a annoncé sa démission lui en direct, hein, une fois que c'était entériné le fait que Guillaume Meurice était licencié, lui il a pris la parole et il a annoncé sa démission en direct à la fin de sa chronique, sans avoir prévenu Charline, qui était la boss de l'émission. Ça a été assez mal vécu d'ailleurs. Et ben, lui, en fait, il disait clairement, si je restais, j'aurais été conditionné à ne plus pouvoir faire des blagues librement, par exemple, sur tout ce qui touchait à Israël ou à Gaza. En fait, ils ont voulu faire un exemple avec Guillaume Meurice, parce que c'était déjà un des humoristes les plus populaires de la station. Et en le licenciant d'une manière aussi brutale comme ça, ils ont voulu clairement en faire un exemple, parce qu'en plus, eux, ils avaient tous des contrats, c'était des CDD, donc ils auraient pu simplement attendre un mois et ne pas le renouveler, et ce qui les aurait évité de payer des grosses indemnités au prud'homme. Mais clairement, après, quand on fait des exemples, derrière, on vise l'autocensure des autres humoristes. C'est fait pour.
Donc, vous expliquiez que sur le reportage, sur la totalité, donc, il y avait une différence entre Bolloré et le service public, donc avec la pression de l'État, qui est présente mais qui est beaucoup plus cachée. Est-ce que dans le futur, on pourrait voir une pression de l'État qui change et qui se transforme comme ce qu'on a pu vivre aux États-Unis avec, par exemple, Trump qui a demandé la démission ou qui a poussé au licenciement des présentateurs du Late Show, notamment Colbert, à la suite des résultats des présidentielles dans quelques mois? Est-ce qu'une pression plus forte de l'État, beaucoup plus claire, c'est envisageable? Et est-ce que ça fait peur aux humoristes aujourd'hui?
Vous savez déjà que les chefs de Radio France, Adèle Van Riff, elle est nommée par Macron, elle est nommée par le président.
Oui, j'ai commencé à regarder le reportage que vous aviez fait Macron.tv, où il y avait déjà cette histoire en 2017-2018 de coupure budgétaire. Est-ce que c'est des choses qui en fait, vont pouvoir évoluer, mais négativement dans un futur proche?
Il faut qu'on ait peur.
Ah bah bien sûr, ça évolue. En fait, si vous avez vu le documentaire Macron TV qui a été fait par Gauthier Meignet, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui est très simple dans cet accroissement du contrôle des médias de l'audiovisuel public, c'est la fin de la redevance. Et en fait, du coup, la fin de la redevance et le fait qu'il y ait des guichets uniques, bon là je parle plutôt pour la télévision, mais en fait il y a beaucoup moins de possibilités pour des réalisateurs de documentaires de proposer leurs films à France 3, à France 5, à France 2. Maintenant, il y a un guichet unique à France Télévisions. Donc, la direction de France Télévisions est nommée par la présidence de la République. Et en plus de ça, avant, ils avaient une indépendance grâce à la redevance. C'était à peu près 140 € par personne d'impôts qui permettaient en fait d'avoir un budget indépendant de l'audiovisuel public. Et pour libérer le pouvoir d'achat, officiellement, Emmanuel Macron l'a supprimé. Sauf qu'en fait, maintenant, pour avoir leur budget, la direction de Radio France et de France Télévisions est obligée de quémander au président de la République entièrement. Alors qu'avant, ils avaient une part qui était assurée, qui était très importante. Et donc ça change complètement l'indépendance que peut avoir le service public. Et on peut facilement imaginer que si c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir en 2027, ça peut avoir une influence assez forte, quoi. Comme il peut y avoir aux États-Unis avec Donald Trump qui fait pression sur des médias privés, lui, dans ce cas-là. Mais on peut voir qu'il y a déjà, par exemple, Eugénie Bastier, là, qui a annoncé travailler maintenant pour France Télévisions. Ça, moi, je le vois vraiment comme une influence des médias d'opinion d'extrême droite qui légitime totalement cette pensée et qui force. Enfin, le service public se sent forcé de la représenter sur ses antennes pour avoir l'air neutre et impartial, quoi.
Est-ce qu'il y a encore un endroit où on peut rire, à part, on l'a cité sur Radio Nova, qui a à peu près récupéré tout ce que l'humour français faisait d'un peu irrévérencieux. Est-ce qu'il y a encore des endroits où ça peut rire librement chez les humoristes, hein? parce qu'on a parlé des salles, on a parlé des radios, on a parlé des médias de manière générale. Est-ce que juste les petites scènes de stand-up sont les derniers endroits où ça peut rire et faire de l'irrévérence?
Bah ouais, c'est un peu ce que nous disaient les humoristes, qu'il restera toujours la scène. Peut-être qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a peut-être un besoin de retour au vrai, au réel. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent tous les humoristes, parce que je pense qu'ils font ce métier aussi pour aller à la rencontre des gens et pour rire avec eux en vrai. Donc, il y aura toujours des salles de spectacle qui seront libres. Je pense notamment à la Nouvelle Scène, qui est une des salles, parce qu'on a, du coup, nous, pendant les documentaires, on a fait que rencontrer des salles de spectacle, des théâtres, et celle qui m'avait pas mal marqué, c'était la Nouvelle Scène. C'est une péniche en face de Notre-Dame et qui fait que des jeunes humoristes prometteurs qui ont une liberté de ton totale. Je vous encourage à y aller.
On va le noter.
Et après, bien sûr, il y a quand même les réseaux sociaux. Parce que je vous parlais d'Edgar Eve qui a été blacklisté. Je ne sais pas si vous connaissez Edgar Eve, parce que c'est assez étrange, cet humoriste, parce qu'il n'est pas toujours connu. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui est connu du grand public, mainstream, notamment peut-être parce qu'il a été depuis toujours blacklisté de toutes les émissions liées à Canal+. Mais il fait des millions de vues systématiquement. Donc en fait, il a une très grosse communauté sur les réseaux sociaux et lui, il s'est construit entièrement sur les réseaux sociaux. Il a une liberté de ton totale. Et donc, quand même, grâce aux réseaux sociaux, on peut encore avoir une liberté de ton et de rire, même s'il y a aussi des biais avec les réseaux sociaux, notamment les shadow bans. Donc, c'est-à-dire que dès que vous faites des blagues un peu politiques sur la Palestine, Israël, etc., ça s'est très rapidement repéré. Mmh. Et en fait, vos publications sont beaucoup moins présentées au reste des internautes. Il y a des modèles, c'est Haroun, par exemple. Lui, il a créé carrément son propre site, qui s'appelle comment, j'ai oublié le nom de son propre site, mais il est sa propre plateforme. Maintenant, il monte sur ses propres spectacles. Il faut les payer pour les voir en ligne. Et lui, peut-être que c'est celui qui serait le plus indépendant, finalement.
Hmm. Est-ce qu'au final, cette censure, c'est juste une question d'ego mal placé, ou est-ce qu'ils se rendent compte que cet humour politique a un vrai impact sur la société?
Bah, je pense que l'humour, c'est une des armes les plus fortes pour faire passer des idées. Je pense que c'est pas du tout... Non, je pense pas que c'est juste une affaire d'ego. Il y a un vrai pouvoir de rire. Les guignols de l'info, pendant 30 ans, c'était tous les jours des millions de personnes qui regardaient les guignols de l'info. Et ben, en fait, ça avait des impacts énormes sur la manière dont les citoyens pouvaient percevoir les hommes politiques. Parfois, même leur marionnette était plus connue que... Il faisait plus de temps d'antenne que l'homme politique lui-même. En fait, à travers l'humour, le rire, on soude. Quand on rit avec quelqu'un, on est en connivence maximale avec elle. Et donc, les idées qu'elle transmet, on les reçoit de plein fouet. Et je pense que ça, pas mal de gens qui s'en rendent compte dans le milieu politique.
Je voulais revenir, moi, du coup, sur ces projets de films, enfin, sur les films qui vont donc être produits et pour lesquels il y a un financement participatif, finalement, hein, on peut le dire comme ça. Comment font les auditeurs qu'ils souhaitent pour soutenir ce média indépendant super que vous êtes?
Alors, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous écrivez « soutenir off investigation » et vous allez très rapidement tomber sur notre page et pouvoir voir les différents projets qu'on veut faire et comment et appuyer sur « participer », tout simplement.
Tout simplement. Ce serait quoi le message que vous auriez, Mathéo, vous, aux auditeurs des radios locales associatives, en l'occurrence, hein, que nous sommes, que nous représentons, sur l'importance de soutenir justement les médias indépendants, même si on sait que dans notre famille, j'ai envie de dire, on est déjà très au fait de tout ça?
Parce que... Enfin, le droit à l'information, c'est absolument nécessaire dans une démocratie. Il faut des citoyens éclairés pour pouvoir voter en conscience. Et actuellement, on est dans un système médiatique où il y a une poignée de milliardaires qui détiennent une majorité de médias. Et s'ils détiennent une majorité de médias, c'est pas simplement du business pour faire de l'argent. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus rentables que ça. C'est pour acquérir de l'influence et pouvoir faire avancer leur agenda politique qui est pro-business, évidemment, pour qu'il y ait d'autres manières de penser, de voir le monde et des informations qui ne vont pas forcément dans leur intérêt, qui puissent voir le jour. Le seul moyen, c'est de participer à des médias indépendants, de les soutenir, de les lire, de les relayer. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut avoir un esprit de jugement et de libre arbitre pour pouvoir participer dans un monde, un système démocratique, quoi.
Eh ben merci beaucoup, Mathéo Larocque, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos nombreuses questions. On était donc avec Studio Zef Blois, nos collègues qu'on salue, et puis donc avec un relais qui sera sur les radios de notre collectif, des radios associatives du centre, le CRAC, voilà, qui est tout récent. Ben on invite vivement les auditeurs à découvrir les enquêtes et documentaires d'Off Investigation, et puis bien sûr à suivre la sortie de Fini de rire, l'humour politique au garde à vous, et la série Humour, l'arme de subversion massive, donc avec ses différents volets, et puis à ceux qui le souhaitent de faire un don pour contribuer au déverrouillage de l'information. Mathéo nous a donné les coordonnées, il y a aussi le site internet www.off-investigation.fr, donc on retrouvera toutes les infos. Et en tout cas, je pense que Zef, on sera d'accord là-dessus, mais on est ravis d'avoir pu, à notre niveau, contribuer à soutenir toutes vos démarches. Merci beaucoup, Mathéo.
Merci beaucoup à vous.
Salut les copains de Zef.
Merci.
Bon courage.
Bonne journée.